Merci beaucoup et bonjour à tous. Alors, je vous d'abord transmets les salutations de donc l'église de la Boissière, hein, au nord de Nantes. Voilà, c'est une petite église aussi et nous vivons un peu la même chose que vous actuellement puisqu'on n'a pas de pasteur. Et donc, c'est une expérience intéressante, parfois un peu difficile. Et on a aussi l'espérance d'avoir très prochainement un pasteur. Donc voilà, c'est encourageant de voir la fidélité de Dieu. Alors on va commencer par quelques lectures de la Bible. Donc j'étais content ce matin qu'on commence à lire dans Jacques. Jacques, c'est un livre intéressant qui est assez étrange parce que c'est un des premiers livres de la Bible à avoir été écrit. Et c'est le dernier livre de la Bible qui a été rajouté dans le canon des Écritures. Je crois que c'était au 4e siècle. Et donc, heureusement qu'il y a eu la direction du Saint-Esprit pour rajouter ce livre dans la Bible. Et c'est un livre très pratique qui nous dérange un peu, nous, chrétiens baptistes, évangéliques, parce que on prône le salut par la foi. Et voilà que Jacques nous dit que la foi peut être morte et qu'il faut aussi agir. Et c'est intéressant. Soyez matures, c'est un commentaire qui a été écrit par un théologien, Warren Scribe, sur le livre de Jacques, justement. Un livre qui nous encourage à devenir des chrétiens matures. Alors, on va lire donc ce passage. Vous voyez que c'est dans Jacques 2, verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et puis le second passage, c'est un passage dans le livre des Hébreux au chapitre 11, vous savez, cet extraordinaire panthéon des grands hommes de foi. Et des grandes femmes de foi aussi, en l'occurrence. Et on lit dans Hébreux 11 au verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Alors vous avez compris, on va parler ce matin de Rahab. Qui sera le personnage central et je dirais la grande question que j'aimerais que l'on se pose ensemble, c'est qu'est-ce qui était particulier dans la foi de Rahab qui faisait que c'était une foi vivante? Jacques nous parle de foi morte et il nous prend comme exemple de foi vivante Rahab et c'est intéressant de regarder un peu en détail ce qui s'est passé dans la vie de Rahab et pourquoi. On dit d'elle qu'elle avait une foi vivante, une foi agissante. Alors on va lire tout le chapitre qui nous raconte l'histoire de Rahab, donc le chapitre 2 de Josué. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions. Alors le début, c'est digne des meilleurs romans d'espionnage, hein. Il y a des espions et il y a aussi un service de contre-espionnage, on va le voir. Donc, il fit partir 2 espions en leur disant, allez examiner le pays, en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi et qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés, hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est le Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes leur répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous jasirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. » Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'entre eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent, ils arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tout le chemin, mais ils ne les trouvèrent pas. Les deux hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Une histoire intéressante, et vous avez sans doute tous entendu autour de vous des gens dire « Je n'ai pas la foi » ou encore « J'ai perdu la foi ». Ou alors, des fois, les gens vous disent « Ah, j'admire votre foi ». La foi est une chose primordiale dans la Bible. Il y a plus de 150 versets de la Bible qui nous parlent de la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés, et pourtant, je le disais, Jacques nous parle d'une foi qui peut être morte. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que c'est qu'une foi vivante? Alors, il y a donc ces deux auteurs du Nouveau Testament, Jacques et l'auteur du livre des Hébreux, qui nous rappellent, n'est-ce pas, l'importance de la foi de Rahab. Rahab occupe une place toute spéciale, vous savez, dans Hébreux 11, je le disais, ce panthéon des grands personnages de la foi, il y a trois parties dans cette liste. Il y a une première partie où on observe qu'il y a à la fois le nom et l'acte de foi que les gens ont fait. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie où il y a seulement le nom des gens, mais il n'y a pas l'acte de foi qui est décrit. Et ensuite, il y a une troisième partie où là, on ne cite que les actes de foi et pas les noms de ceux qui ont fait cela. Vous savez, qui vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, etc. Et donc, Rahab occupe une place toute particulière parce qu'elle est la dernière dans la première liste. C'est la dernière dont on cite à la fois le nom et l'acte de foi. Et il y a un théologien, Edmond Miller, qui a écrit ceci. Il a dit « Il n'est pas surprenant que Dieu termine avec Rahab », sous-entendu cette première liste. Il a commencé le chapitre avec la foi juive, il termine avec la foi d'une païenne. Rahab est la dernière illustration dans ce chapitre, Je pense qu'elle est à la fois un résumé de la foi. En d'autres termes, elle rappelle toute la base de toute foi. Mais elle est également une illustration de l'apogée de la foi. En d'autres termes, Dieu l'utilise pour souligner les grands principes de la foi. Elle est donc la dernière dans la liste. Intéressant, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui fait que dans la foi de Rahab, est une foi remarquable? Alors le contexte, hein, on a vu premièrement que Rahab, on voit pas très bien, mais Rahab est une prostituée. Alors ça, c'est un étrange, une étrange indication qui a posé bien des questions aux commentateurs de la Bible. Certains affirment qu'elle était gérante de taverne, c'est ce que laisse entendre le terme en hébreu, mais le terme grec, lui, est très clair, hein, c'est porneia qui a donné pornographie, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, remarquons que Rahab n'est pas toujours citée comme une prostituée, et notamment dans les deux passages du Nouveau Testament qu'on a lus, il est simplement dit que Rahab était il est dit qu'elle est des prostituées, mais c'est pas ça qui est bien sûr mis en avant. Je pense que si la Bible précise que Rahab était une prostituée, c'est une manière de mettre un éclairage particulier sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la grâce infinie de Dieu, qui a choisi cette femme pour représenter un exemple remarquable de foi. Et ça nous fait réfléchir vraiment sur la grâce infinie que Dieu a eue pour nous. Comment ne pas penser à l'apôtre Paul qui disait ceci, alors je ne sais plus trop où j'en suis dans ma... voilà, qui disait ceci, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Et le grand apôtre Paul qui a écrit des épîtres tellement importantes, eh bien lui reconnaissait qu'il était le premier des pécheurs. Et c'est une indication intéressante que nous trouvons dans cette histoire de Rahab. La deuxième chose qui est frappante, c'est que Rahab avait une grande famille. N'est-ce pas, donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent. Donc ça, c'est aussi intéressant, n'est-ce pas? On parlait tout à l'heure de la difficulté avec les enfants. Et je disais à Annie qu'on a eu un fils aussi qui a eu beaucoup de peine pendant des années à dormir. Et c'est vrai que c'est une épreuve. Mais maintenant, c'est un grand garçon qui est lui-même papa et qui suit Dieu et qui est engagé dans une église à Rennes. Et donc voilà, c'est pour t'encourager de ne pas te décourager. Donc Rahab avait une grande famille. On voit qu'elle fabriquait peut-être du lin. En tout cas, on a lu que elle a caché les deux espions sous des tiges de lin. Il y avait peut-être aussi du cramoisi chez elle, alors c'était peut-être une commerçante. Elle habitait aussi le mur extérieur de la ville, hein, c'était aussi une caractéristique. Elle les fit descendre, on a lu, hein, par la fenêtre qui était chez elle et qui se trouvait sur la muraille extérieure. En 1930, il y a eu des fouilles qui ont été faites dans le site de Jéricho, et on a trouvé un pan de mur qui était resté debout en faisant ces fouilles, et c'est intéressant. Peut-être c'était le pan de mur où se trouvait la maison de Rahab. Mais une dernière caractéristique, hein, de Rahab, et c'est peut-être la caractéristique la plus importante, c'est qu'elle était, elle faisait partie d'un peuple qui était maudit par Dieu. On lit dans Genèse 15, verset 13, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Ça, il s'agit de ce passage en Égypte. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix avec tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. 400 ans se sont écoulés depuis cette promesse, les Amoréens, les Cananéens, eh bien l'heure du jugement est venue. Et Rahab le sait bien, on a lu, hein, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis. Je ne sais pas ce que vous pensez des habitants de Jéricho quand le peuple d'Israël s'est mis à tourner autour de la ville, vous savez, avec des trompettes. Moi, je me suis toujours dit, il devait être complètement zinzin, ce peuple d'Israël. Mais je pense pas que les habitants de Jéricho se sont moqués des Israélites lorsqu'ils tournaient autour. Je crois qu'ils étaient plutôt saisis de terreur. Et le passage que nous avons lu nous montre que tous les habitants de Jéricho avaient peur. Ils avaient peur, ils étaient terrifiés parce qu'ils connaissaient cette parole de l'Éternel et ils savaient que le moment du jugement était venu. Alors, dans cette histoire, il y a une partie intéressante, hein, c'est cette partie où on voit le stratagème de Rahab. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà raconté cette histoire à l'école du dimanche, mais c'est un peu compliqué, hein, quelque part, parce que, il faut quand même reconnaître les choses. Notre ami Rahab a quand même raconté un gros mensonge, hein, disons les choses clairement. Elle prit les deux hommes, les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je savais pas d'où ils étaient, ça c'est faux. Et comme la porte a dû se fermer, ces hommes sont sortis, ça aussi c'est faux. J'ignore où ils sont allés, hâtez-vous de les poursuivre, etc. Alors, est-ce que c'est ce gros mensonge qui fait que Rahab est une héroïne de la foi? Je ne pense pas. Je pense d'ailleurs que c'était vraiment un mensonge et la loi de Dieu était claire, hein, vous ne déroberez point, vous n'userez ni de mensonge ni de tromperie les uns envers les autres. Ce n'est donc pas le mensonge de Rahab qui constitue son acte de foi. Et d'ailleurs, dans les deux passages qu'on a lus, dans Jacques et Hébreux, ce mensonge n'est jamais mis en avant, on n'en parle pas de ce mensonge. Alors, qu'est-ce qui est particulier dans la foi de Rahab? Une première chose que je voudrais souligner, c'est que Rahab est une personne sauvée in extremis. Elle est sauvée au dernier moment. On l'a vu, Rahab était terrorisée. Elle avait cette peur, cette crainte de ce qui allait arriver. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu qui a agi en elle. Elle reconnaissait que son peuple était maudit et Dieu a mis dans le cœur de Rahab cette terreur et elle s'est repentie. Remarquez que Dieu a mis aussi la terreur dans tous les autres habitants de Jéricho. Hein. Le passage est clair, hein, dans ce que nous avons lu tout à l'heure. Mais il y a eu une autre réaction chez les autres habitants, ils se sont endurcis. Et je crois que ça, c'est une première chose intéressante qu'on observe chez Rahab. Rahab avait compris qu'elle était pécheresse, elle avait compris que ce qui l'attendait, c'était la mort. Mais elle s'est repentie, elle a reconnu, hein, que son peuple était un peuple maudit, alors que les autres habitants de Jéricho se sont endurcis. Voilà le cœur du message, je crois. Ce n'est pas le mensonge de Rahab qui est mis en avant, mais le fait qu'elle a reçu les espions avec bienveillance. La différence entre le cœur de Rahab et celui des habitants de Jéricho, c'est que son cœur était ouvert. Il était ouvert pour accepter le salut, pour accepter les messagers et pour accepter le message de Dieu. Le message de Dieu, c'était « Tu es une femme morte, tu es pécheresse, tu es coupable, tu mérites d'être condamnée. » Mais elle a reçu le message, elle a crié à Dieu, elle a crié aux deux espions pour avoir la grâce. Et c'est une extraordinaire image du salut. Elle montre comment le monde est sauvé. Voyez-vous, la foi, c'est de recevoir simplement le message que Dieu, le message du salut que Dieu nous a donné. Elle savait qu'elle était pécheresse et elle savait qu'elle pouvait être sauvée. Et c'était cette foi qu'elle avait dans son cœur qui lui a permis d'être sauvée. Le salut de Rahab, c'est un mauvais jeu de mots, je sais, mais le salut de Rahab ne tenait qu'à un fil, ce fil cramoisi qu'elle a accroché. Cramoisi, c'est une couleur très rouge, c'est un rouge profond. Et comment ne pas penser, en voyant ce fil cramoisi attaché à sa fenêtre, comment ne pas penser au sang de Jésus qui a été versé pour nous sur la croix? Comment aussi ne pas penser à la Pâque? Et les Israélites qui avaient mis du sang d'un agneau sur les linteaux de leurs portes pour que le jugement de Dieu ne passe pas sur eux. C'est une image très forte. Ça me rappelle aussi ce verset d'Ésaïe, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » L'expérience de Rahab nous montre que Dieu est capable de sauver n'importe qui, même une prostituée. Une femme cananéenne de plus à l'époque, elle n'était pas israélite. Elle nous montre que Dieu est capable de sauver même à la dernière minute, quand tout semble perdu. Rahab a eu la foi, elle a demandé aux deux espions d'avoir la vie sauve. Ensuite, on sait que Rahab a rencontré un Israélite, elle s'est mariée avec lui. Cet homme s'appelait Salmon. Alors, il y a une chose extraordinaire, il y a quelque temps, j'avais apporté un message sur Ruth, et je me suis aperçu que Ruth est la belle-fille de Rahab, ou que Rahab est la belle-mère de Ruth. C'est intéressant, parce que c'est deux femmes, d'abord, deux femmes dont la Bible nous les donne comme des exemples particuliers de foi. Vous vous souvenez, Ruth qui est parti de son pays, qui est allé dans l'inconnu complètement, qui a suivi sa belle-mère et qui a vraiment eu foi en Dieu, alors qu'elle était aussi une habitante du pays de Moab, elle n'était pas israélite. Et voilà que Ruth s'est mariée avec Boaz, on connaît cette histoire aussi, et voilà, elle est devenue donc la belle-fille de Rahab. J'imagine les discussions qu'il y a dû avoir entre ces deux femmes. C'est pas rapporté dans la Bible, mais c'est extraordinaire de penser que Dieu a mis là dans la généalogie de David et dans la généalogie de Jésus. Souvenez-nous que si on continue, eh bien on arrive à Jésus. Il a mis ces deux femmes, et c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir d'abord sur le ministère des femmes dans l'Église, parce qu'on voit que il a mis deux femmes dans la généalogie de David, et puis en même temps c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir sur l'accueil des réfugiés dans nos églises, l'accueil des étrangers aussi, parce que voilà, c'était deux femmes qui n'étaient pas israélites et que Dieu a choisi tout particulièrement pour nous montrer ce qu'est la foi. Pour terminer, j'aimerais revenir sur la foi de Rahab et voir quelques petits points qui nous montrent que c'était une foi vivante. Et une foi vivante, eh bien, quand vous savez que quand on veut parler de vie, eh bien, on va utiliser des verbes, on va agir. C'était une foi qui agissait. Et alors, j'aimerais m'arrêter sur quelques verbes que l'on a trouvés dans ce récit de Rahab. Le premier verbe, on ne voit pas très bien, c'est le verbe apprendre. On voit dans le verset 10, hein, de Josué chapitre 2 qu'on a lu tout à l'heure, on voit qu'il est dit, car nous avons appris comment. Voyez-vous, la foi, elle commence par la connaissance. C'est Romain qui nous dit, hein, Paul, dans le livre des Romains, qui nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Beaucoup de gens qui nous disent ouais, j'ai pas la foi, eh bien, il faut leur dire ben, la première chose qu'il faut faire pour avoir la foi, c'est déjà de lire la Bible, parce qu'on ne peut pas avoir la foi si on ne connaît pas. Et la première chose que l'on voit dans cette histoire de Rahab, c'est que Rahab savait, elle savait énormément de choses. Elle connaissait que le peuple d'Israël était sorti d'Égypte, qu'ils avaient traversé la mer à sec, elle connaissait qu'ils avaient combattu des rois, et elle savait beaucoup de choses. Et je crois que ça, c'est la première chose qu'il faut reconnaître, qu'il faut savoir lorsqu'on parle de foi. La première chose à faire pour avoir la foi, eh bien, c'est d'apprendre, c'est de connaître. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup on a lu hein, que les que Rahab a dit aux espions, l'Éternel, je le sais. Je le sais. C'est intéressant, n'est-ce pas? Elle savait des choses, et ça me fait penser à Paul. Paul, vous vous souvenez, qui dans 2 Timothée 1, verset 12, nous dit, c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Et voilà, ça c'est un encouragement pour nous lorsque, comme les disciples, on voudrait avoir un peu plus de foi. Eh bien, souvenons-nous que d'abord la foi, c'est la première étape, c'est d'apprendre, c'est de connaître Christ, de connaître en qui nous avons cru. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que Rahab a aussi demandé. Elle a demandé. Elle a demandé d'ailleurs avec insistance, hein, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel. Hein, et puis un peu plus loin, donnez-moi l'assurance. Elle a su demander. Elle a demandé et je crois que c'est quelque chose d'important aussi, c'est un verbe important aussi dans la foi. Est-ce que nous avons simplement une foi théorique? Est-ce que nous demandons des choses à Dieu? Souvenez-vous de Jésus, hein, qui a dit, moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et dans Jean 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. On voit qu'il faut connaître Christ et il ne faut pas hésiter à demander. La foi, c'est aussi demander. Et puis la foi, c'est aussi recevoir. Hein, on a vu que Rahab a reçu les espions avec bienveillance. Et ça me rappelle ce verset de 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Donc, connaître, apprendre, hein, savoir, demander et recevoir. Il faut aussi recevoir ce que Dieu nous a donné. Le dernier verbe que je voudrais dont je voudrais que je voudrais souligner, c'est le verbe attacher. Hein, c'est intéressant hein, de voir que Rahab a attaché ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre. Et la foi véritable consiste à être attaché à Dieu. Que nous soyons attachés à Dieu, à la vérité, à la Bible, à son Église. Par ce geste, en attachant ce cordon, elle manifestait publiquement, clairement, qu'elle désirait être sauvée. Et ça aussi, c'est une caractéristique de la foi active de Rahab. elle a manifesté, elle a proclamé « Je veux être sauvé » en attachant ce fil de ce cordon cramoisi à sa fenêtre. Attention à cette idée fausse qui laisse croire que tout le monde sera sauvé parce que Dieu est bon. Ce n'est pas du tout le message de la Bible qui nous dit dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Il y a donc bien une prise de position très claire. La foi de Rahab l'a conduite au salut. Elle lui a permis d'être sauvée, de ne pas périr dans la chute de Jéricho. Mais notre foi ne s'arrête pas là. L'apôtre Paul nous rappelle que nous devons vivre par la foi. Il dit ça dans Romains 1, 17, le juste, vivra par la foi. Alors notre foi doit être vivante, elle doit nous pousser à agir. Alors c'est intéressant, hein, on est chacun dans notre église, et c'est intéressant dans une phase où on a besoin d'agir pour l'église, parce qu'il n'y a pas de pasteur, et donc il faut qu'ensemble on agisse pour que l'église fonctionne, tout simplement. Et je crois que c'est des périodes que Dieu prévoit dans la vie de nos églises, des fois peut-être pour que nous, qui ne sommes pas nécessairement à plein temps, moi je suis enseignant à l'université, d'autres travaillent dans d'autres domaines, mais voilà, Dieu nous demande aussi d'avoir cette foi agissante, cette foi qui agit pour Dieu. Dietrich Bonhoeffer était un pasteur allemand qui a vécu durant la Deuxième Guerre mondiale et qui a démontré sa foi dans un milieu terriblement difficile, hein, dans l'Allemagne nazie. Il a continué à prêcher la parole durant cette période très sombre. Il a écrit un merveilleux livre qui s'appelle « La grâce qui coûte ». Et sa foi l'a amené à mourir dans un camp de concentration. Et voilà ce qu'il dit dans ce livre. « La grâce qui coûte, c'est le trésor caché dans le champ. À cause de lui, l'homme va et vend joyeusement tout ce qu'il a. La grâce qui coûte, c'est la perle de grand prix. Pour l'acquérir, le marchand abandonne ses biens. La grâce qui coûte, c'est la royauté du Christ. À cause d'elle, l'homme s'arrache un œil qui est pour lui une occasion de chute. La grâce qui coûte, c'est l'appel de Jésus-Christ. L'entendant, le disciple abandonne ses filets et le suit. » Alors, on a sans doute déjà placé notre foi en Dieu pour qu'il nous sauve, pour notre salut. Mais est-ce qu'on est prêt à aller plus loin avec dans ce chemin de la foi? Est-ce qu'on est prêt à avoir une foi qui agit. Frédéric, j'arrive pas à le lire, Botterton Meyer, c'est un autre théologien. J'aimerais terminer par ça. Il a dit ceci, c'est très intéressant. C'est le manque de foi place des obstacles entre Dieu et nous, tandis que la foi place Dieu entre nous et les obstacles de notre chemin. Donc, ayons cette foi qui nous aide à surmonter les difficultés, à surmonter les obstacles, que nous sachions demander à Dieu quand nous avons des soucis, des problèmes, des obstacles dans notre vie, et que nous ayons cette foi de Rahab qui a su, qui a cru que Dieu, dans cette situation désespérée, que Dieu pouvait la sauver, elle et toute sa famille. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, nous voulons te louer, te remercier pour ces exemples dans ta parole, pour cet exemple de Rahab qui a placé sa confiance en toi, qui a su que tu étais le Dieu tout-puissant sur la terre, dans les cieux, sous la terre, nous dit-elle. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour cet exemple et nous voulons t'apporter notre vie. Je veux t'apporter ma vie afin que tu fasses grandir ma foi, que ma foi soit aussi une foi qui agit, que je puisse te servir comme Rahab l'a fait. Encourage chacun de nous dans ce chemin de la foi. Merci Seigneur. Amen.